que l'étalement urbain est devenu prégnant, la question de l'énergie et donc de la rénovation du bâti aussi. Et donc finalement, face à ces enjeux-là, la surélévation, elle joue, ou elle a cette capacité en tout cas de vraiment jouer un rôle. Pour ces sujets-là que la thèse a identifié que la surélévation était un outil dans les métropoles, dans les villes, idéalement toutes celles qui sont en capacité effectivement d'accueillir ce type de projet, devraient se saisir.
Nouveau territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires.
Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique. Nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer? Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former? Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Boucher-Blancou. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouveaux Territoires. Alors, tu as réalisé une thèse qui s'appelle « Densifier et rénover à l'échelle urbaine par la surélévation », une thèse que tu as soutenue le 18 novembre 2020 à l'Université de Strasbourg, au laboratoire AMUP pour architecture, morphologie, morphogénèse urbaine et projet sous la direction de Denis Boquet. Cette thèse met en évidence le potentiel quantitatif de la surélévation face aux enjeux de lutte contre l'étalement urbain. Première question, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de la surélévation ?
Ma thèse, elle a démarré en fait en 2014-2015. La loi Allure venait de passer. La loi Allure, du coup, supprimait le coefficient d'occupation des sols et ce faisant, libérait en fait un potentiel de foncier aérien. Donc, ce qu'on appelle foncier aérien, c'est donc la capacité des bâtiments à accueillir une surélévation, donc de manière réglementaire. Ce potentiel, il était tout d'un coup, du jour au lendemain, absolument considérable, faramineux. Et évidemment, un très grand nombre de métropoles françaises et donc d'autres villes aussi européennes, mais par d'autres moyens, se sont s'intéressés au sujet. Et donc en France, voilà, du jour au lendemain, c'était tout d'un coup ce potentiel. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment l'exploiter? Allons-y et ça va être génial, ça va résoudre plein de problèmes.
Oui, il y avait aussi tout ce contexte de la consultation du Grand Paris qui a généré ce débat de la surélévation.
Oui, quelques années plus tôt, donc en 2008, Nicolas Sarkozy avait lancé auprès des architectes urbanistes une consultation donc pour l'avenir du Grand Paris. Et trois équipes, toutes s'étaient penchées sur le sujet de la densification, mais finalement, trois équipes vraiment avaient mis en avant ce potentiel des villes à accueillir ce qu'on appelle une nouvelle strate urbaine, donc à se dire, mais la surélévation, les toits, en fait, sont un nouveau territoire à conquérir.
Et donc, face à cette effervescence des échanges et des idées, tu t'es demandé, donc, par rapport à cette surélévation, à quoi on peut s'attendre vraiment? Est-ce qu'on ne s'emballe pas sur ce sujet-là?
Voilà, c'était le premier pas, c'était finalement de questionner les politiques urbaines métropolitaines qui s'intéressaient à la surélévation, qui finalement, évidemment, ont développé de grandes attentes en se disant, si ça aide à résoudre l'étalement urbain, si ça aide à financer la rénovation de tout le bâti existant, si ça aide à financer la rénovation du patrimoine, si ça aide à faire la mixité sociale, tout ça, c'était des enjeux annoncés qui sont toujours des grands enjeux urbains actuels. Et donc forcément, moi, en tant que jeune chercheuse, je m'intéressais à me dire dans quelle mesure, réellement, quantitativement et qualitativement, et comment utiliser ce potentiel.
Alors, tu questionnes dans ton travail la notion de ville sur la ville, c'est-à-dire que la surélévation fait partie de la notion de construire la ville sur elle-même.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une pratique qui est déjà très, très ancienne. Et en fait, en urbanisme, il y a cette notion, il y a des notions clés comme ça qui sont souvent interrogées, exploitées. Et donc là, la ville sur la ville ou faire une nouvelle strate urbaine, tout ça, ce sont des éléments de langage qui permettent de se dire que finalement, par la surélévation, en l'occurrence, on va recréer finalement, alors soit voilà, rajouter de manière ponctuelle ou un peu plus massivement une couche nouvelle sur la ville. Donc on sédimente, on fait des nouvelles strates. Et après, l'idée de renouvellement de la ville sur elle-même, donc refaire la ville sur elle-même, c'est plutôt une dynamique de renouvellement urbain ponctuel, c'est-à-dire bâtiment par bâtiment, projet par projet. Et c'est en fait quelque chose qui a toujours eu lieu. C'est-à-dire que de l'histoire des villes, Jusqu'aussi loin qu'on peut le remonter, finalement, la surélévation a fait partie de l'histoire de la construction des villes, de la continuation de l'édification des bâtiments. Et c'est aussi un outil, effectivement, qui maintenant est plutôt utilisé en vue de revaloriser en fait, l'existant.
Dans ton travail, tu t'es intéressé à trois villes, Genève, Barcelone et Paris. Pourquoi le choix de ces trois villes ? Elles sont complémentaires ?
Oui, alors l'objectif au départ, c'était de voir dans quelle mesure la surélévation était, donc, par le passé et est actuellement envisagée à l'époque contemporaine, et de trouver des villes finalement dans lesquelles il y avait une variété aussi de contextes, une variété d'enjeux finalement, parce que quand même s'il y a des enjeux qui sont très similaires, ils ne sont pas toujours les mêmes, et du coup d'avoir des politiques différentes aussi pour voir quelles étaient justement les différences d'application.
Partons à Genève, donc, où le cas est assez intéressant. En 2008, donc, la ville a voté, donc, a modifié son règlement urbain suite à une pénurie de logements.
Effectivement, à Genève, donc, il y avait une pénurie de logements qui commençait à s'installer, qui était extrêmement forte. Et donc, c'est cette problématique-là qui a amené la ville à se tourner vers la solution de la surélévation, mais carrément de la rehausse des gabarits constructifs. Donc là, en 2007, ils ont réfléchi à mettre une loi qui a été votée en 2008 et qui donc a institué le droit de rajouter deux étages existants à deux tiers de la ville, excepté le cœur historique. Et c'était finalement, c'est un exemple qui a été tout à fait significatif dans cette étude doctorale, étant donné que c'est la seule ville qui a fait ce choix-là.
Ça a été assez compliqué, finalement. Il y a eu des levées de boucliers. Les associations de défense de patrimoine se sont un peu opposées. Ça n'a pas été si simple.
Voilà, effectivement. Alors, ça a été une expérience qui a servi à mon avis, beaucoup d'autres métropoles européennes, dans la mesure où le premier constat, dès le passage de la loi, ça a été effectivement cette levée de boucliers. Une résistance très forte des habitants, des défenseurs du patrimoine, qui se disaient justement, il y aura surdensification, il y aura des bouchons, ça va être une catastrophe puisqu'on n'aura plus de lumière dans les rues, etc. Alors même que le choix de rehausser ou d'ouvrir ce potentiel de rehausse avait été évidemment réfléchi par les services d'urbanisme et du patrimoine en accord avec la largeur des rues, etc. Mais quand bien même, c'est vrai qu'une modification de cet ordre-là nécessairement, effectivement, joue un rôle auprès de l'acceptabilité sociale.
Et donc, le bilan qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de surélévation, en fait.
Oui, alors finalement, donc, moi, la recherche, l'enquête que j'ai menée sur place, ça a été de vérifier concrètement, dans les 10 ans qui ont suivi le passage de la loi, combien de surélévations avaient effectivement été réalisées. Donc, sachant qu'il y a toujours ce délai un petit peu entre le dépôt du projet et sa réalisation, mais disons dans les 10 ans, on pouvait effectivement s'attendre à ce que finalement les meilleurs entre guillemets les meilleurs potentiels soient exploités en premier. Et les résultats ont été tout à fait surprenants puisque en fait à 2 ou 3 bâtiments près, il n'y a pas eu plus de surélévation construite dans les 10 ans qui ont suivi que dans les 10 ans qui ont précédé la loi. Et en fait, la raison, elle se trouve pas nécessairement dans ce qu'est la surélévation ou dans cette loi en particulier, mais en fait dans une autre loi qui existe et qui existait et qui existe toujours à Genève, qui est en fait une loi qui a pour but d'empêcher la spéculation urbaine. Spéculation immobilière, pardon, et qui du coup restreint en fait la faisabilité économique des opérations. Donc on va dire que c'est à la fois, ça a été un exemple pour les autres métropoles de se dire qu'est-ce qui se passe si on met en place une loi qui va modifier les gabarits, et en même temps ça ne peut pas être un exemple ou une comparaison possible pour les autres métropoles étant donné que c'est une loi, la raison qui fait qu'il n'y a pas eu de surélévation à Genève grâce à cette loi, elle est propre à Genève et à un contexte qui est propre à Genève.
À Barcelone, maintenant, là, il n'y a pas eu de changement de réglementation urbaine. Tu as choisi cette ville plutôt pour la problématique du remplissage des dents creuses. Tu peux un peu expliquer ?
Oui, alors en fait, c'est une question qui se pose en règle générale aussi dans le milieu architectural et urbain, de se dire, bon, bah, ok, on s'y relève, alors est-ce qu'on va plutôt remplir des dents creuses, remplir le vide entre deux immeubles quand il y en a un qui est plus bas au milieu, et donc aligner les toitures, ou est-ce qu'au contraire, il faut préserver les vides, préserver une morphologie urbaine qui soit variée. Et donc, alors le débat a toujours lieu, le débat est sans fin, puisque finalement il touche vraiment à la question à un certain nombre de questions, mais qui sont en partie subjectives et donc qui sont en partie propres à un débat effectivement de spécialistes. Maintenant, à Barcelone, ce qu'on constate, c'est surtout que le marché de la surélévation est un marché un peu comme à Paris, en fait, marché immobilier, mais à Barcelone en particulier, c'est un marché qui se vit que dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que la municipalité et les précédentes ne se sont jamais positionnées par rapport à ce sujet. Pour ou contre, en fait, ils laissent faire, c'est-à-dire qu'ils autorisent régulièrement les permis de construire, aussi parce que là-bas, le remplissage des dents creuses joue un rôle très, très particulier. C'est qu'en fait, dans les assemblées conçues par Cerdà en 1859, les façades des bâtiments sont classées auprès de leur classement historique et patrimonial. Et donc, en fait, ces façades-là, quand on veut les rénover, parce qu'elles doivent souvent être rénovées, notamment les volets en bois, en fait, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, la surélévation est un des leviers régulièrement utilisés pour financer ça. Donc, forcément, la municipalité y voit un gain. Et voilà, elle est très permissive par rapport à la surélévation. Par contre, elle ne s'est jamais positionnée favorablement pour différentes raisons. Une de ces raisons, notamment, c'est que sous l'époque de la municipalité de Portiolès, qui était en fait un maire fasciste sous l'époque de Franco, on se rend compte qu'en fait, ce maire avait autorisé beaucoup de surélévations qui étaient des vraies catastrophes, en fait, et qui ont dénaturé complètement le patrimoine. Et donc, cet héritage un peu malheureux empêche maintenant les municipalités actuelles de se positionner plus favorablement, ouvertement.
Donc aujourd'hui, quel bilan tu peux faire de Barcelone ?
Alors que là-bas, la surélévation est aussi tout à fait pertinente, de manière tout à fait précise aussi sur cet usage-là du financement de la rénovation du patrimoine. Et il y a un autre élément intéressant aussi, c'est que finalement, elle est facilitée par le fait que justement, dans le quartier de l'Eixample, en fait, les bâtiments sont construits à une époque relativement resserrée, dans des principes constructifs qui sont identifiables, et les bâtiments, la plupart, sont rectilignes. Donc il y a une facilité en fait à installer des projets. Il y a aussi une tradition constructive de l'acier qui est très forte. Et donc il y a une entreprise là-bas qui s'appelle la Casa por el Terrado qui construit beaucoup, et notamment en module tridimensionnel. Donc ils ont une expertise constructive qui est tout à fait pertinente.
Alors maintenant, évoquons Paris. Alors tu dis que Paris s'est construit par strates. Un cinquième de la ville a été surélevé dans l'histoire.
Oui, absolument. C'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens qui ont montré ça. La Pure aussi, donc les Parisiens d'urbanisme, s'est aussi penché sur le sujet de l'impact notamment de la loi Allure sur le bâti parisien. Donc il y a voilà, c'est effectivement un fait. À ma connaissance, assez répandu. Et ça nous montre une chose, c'est que finalement, la surélévation n'est pas un sujet contemporain. C'est un sujet qui a toujours existé. Et comme dit, c'est cette façon de l'aborder. C'est aussi l'évolution, bien sûr, du marché immobilier, de comment la ville est faite, qui nécessairement fait qu'on a une approche qui se renouvelle.
Alors, tu l'as dit, la Pure, l'atelier parisien d'urbanisme, a réalisé donc une étude après la loi donc Allure en 2014, donc qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols. Et donc, la Pure a vraiment établi un rapport sur le potentiel que permettait Paris, donc qui était assez énorme, avec plus de 8850 logements qui pourraient être construits par de la surélévation.
Et encore, ils n'ont pas pris en compte tous les bâtiments qui n'étaient pas sur rue. Leur étude ne concerne que les bâtiments sur rue. Donc si on intègre encore les bâtiments en cœur de parcelle ou en fond de parcelle, c'est considérable. Alors, ils ont fait une étude qui était estimative sur en fait une forme de statistique en partant en fait d'échantillons qu'ils ont transposés. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui se sont penchés sur la question. Il y a notamment donc la société UpFactor qui finalement a elle développé un outil qui permet de croiser des données et donc là qui précisément a réussi à identifier ce potentiel là à l'adresse et de manière exhaustive.
Oui, donc tu parles d'un potentiel brut, en fait, c'est ça ?
Voilà.
Et finalement, le potentiel, il n'est pas si infini que ça, en fait, c'est ça ?
Alors, c'est ça. La question, c'est toujours la même, c'est de se dire comment est-ce qu'on évalue un potentiel de foncier aérien. Quand on fait une estimation, quelle que soit la façon de faire, on obtient un résultat qui nous montre nécessairement le potentiel réglementaire, c'est-à-dire la différence entre la hauteur des bâtiments existants et celle permise par le règlement d'urbanisme. Maintenant, il faut ajouter d'autres critères pour réduire effectivement et affiner ce potentiel, pour se dire bon, qu'est-ce que réellement on est susceptible de voir être construit en surélévation. Des critères, par exemple, les retraits en façade ou sur les angles qui sont imposés, donc les angles à 45 degrés, qui réduisent nécessairement ce potentiel-là. Il y a aussi toute la question de l'état du bâtiment existant. Donc, est-ce que c'est un bâtiment qui est susceptible d'accueillir une masse supplémentaire? Est-ce qu'il y a un comble qui est occupé? Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui réduisent le patrimoine aussi. Ce sont un certain nombre de choses qui réduisent le potentiel.
Et donc, on en est où aujourd'hui à Paris depuis donc, le vote de la loi Allure? Est-ce que, par rapport au potentiel donc, initial de la pure, est-ce qu'il y a eu beaucoup de surélévation? Est-ce que le bilan est positif?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là, parce que finalement... Moi, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai plutôt fait une recherche qui, du coup, à un moment, s'est arrêtée nécessairement et a été sur des sujets très précis. Les chiffres de la surélévation aussi ne sont pas nécessairement facilement communiqués. Ce qu'on sait, par contre, c'est notamment le nombre de permis de construire délivrés chaque année, etc., qui est plus ou moins constant, qui est autour de 180-200 permis autorisés chaque année. Maintenant, une surélévation, ça peut être 20 mètres carrés comme 1000, ou voire plus. Donc, c'est aussi, il y a une diversité en fait de projets. En tout cas, la surélévation, elle continue de se pratiquer, tout à fait.
Mais est-ce que ça a débloqué quelque chose, la loi Allure, à Paris et en France?
Alors, la loi Allure, elle a ouvert effectivement un vaste potentiel. Maintenant, ce qu'elle n'a pas débloqué, ce sont les freins qui ont toujours été là, qui sont toujours là, qui empêchent un certain nombre de projets, malheureusement, d'aboutir. Je dis malheureusement parce qu'il y a effectivement tous ces avantages de rénovation et de valorisation. Il y a des freins qui sont en place, qui sont outre les aspects constructifs qui nécessairement imputent après sur la faisabilité économique des projets. Il y a aussi des freins plutôt sociaux ou sociétaux qui sont l'acceptabilité de la surélévation. C'est-à-dire qu'en règle générale, à un dépôt de permis de construire pour une surélévation, il y a des recours de tiers du voisinage ou des gens qui s'opposent à ce type de projet un petit peu par principe, mais quand il s'agit du voisinage, il y a toujours ces craintes de se dire « Ah oui, mais mon quartier va être surdensifié » ou alors « Ah oui, mais je vais perdre en luminosité », etc. Alors que, bon... bien sûr, ça peut toujours être le cas. En règle générale, les concepteurs dessinent les projets de sorte de vraiment minimiser l'impact. Il y a toujours aussi les règles d'urbanisme, en fait, qui nécessairement délimitent les gabarits et qui font que les surélévations, avec les retraits, les angles, etc., effectivement, ont un impact moindre. Mais il y a ces résistances.
Est-ce que les projets de surélévation aujourd'hui sont pour l'instant en très grande majorité à l'échelle du bâti et oui. Pas tant à l'échelle urbaine en fait?
Alors, ça commence tout doucement à le devenir. C'est effectivement encore actuellement à l'échelle architecturale, encore trop à cette échelle. Trop parce qu'il y a un réel intérêt à les mener à l'échelle urbaine. Alors ça commence tout doucement à émerger, je le vois dans ma pratique professionnelle actuellement, en ayant rejoint du coup la société Factor et en travaillant avec eux de concert à justement mener des études de gisement à l'échelle de territoire métropolitain. Tout l'objectif, c'est justement de passer de cette échelle architecturale à l'échelle urbaine, pas pour dire on va surélever toute la ville ou pour créer justement une couche... sans se soucier de l'échelle architecturale. Au contraire, c'est pour dire, si on commence par analyser l'entièreté, l'exhaustivité des potentiels à l'échelle d'un territoire, alors on peut, de concert avec le service d'urbanisme de la ville en question, réfléchir à où est-ce que c'est vraiment intéressant, du coup, de mener ces projets. Parce qu'on affine, du coup, on a la liste exhaustive des projets faisables, et on peut réfléchir à prioriser ou à réfléchir à où c'est intéressant par rapport à la densité existante des quartiers, par rapport à la proximité aux aménités urbaines, aux transports, de se dire on a une liste de bâtiments, on va prioriser ceux dont les classes énergétiques sont les plus basses, parce que la priorité, c'est de rénover ce bâti.
Il y avait un autre postulat de départ dans ta thèse qui est de savoir si la surélévation permet de financer la rénovation énergétique et thermique du parc bâti ancien. Et voilà, qu'est-ce que tu en déduis là aussi à l'issue de ce travail ?
Alors, globalement, c'est une des grandes conclusions, effectivement, de la thèse, de se dire c'est peut-être là où elle est, où elle a le plus grand potentiel, où elle est extrêmement pertinente. C'est dans cet apport, en fait, cette valorisation qui permet de financer les travaux de rénovation. Alors, à l'heure actuelle, on sait, en fait, que ça fonctionne. On a des dizaines d'exemples d'opérations à l'échelle individuelle, bâtiment par bâtiment, où ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on ne sait pas et qui va, en fait, être l'objet de ma future recherche qui va démarrer très bientôt, donc une recherche postdoctorale avec la Société Upfactor et l'Eurométropole de Strasbourg, du coup, qui sera notre territoire d'expérimentation, on va justement mener cette recherche-là pour, en fait, affiner la question et se dire, OK, concrètement, quelle est la mesure quantitativement, qualitativement, comment faire pour généraliser, faciliter, massifier la rénovation thermique à travers la surélévation. Voilà, quels sont concrètement les éléments à mettre en place pour la rendre possible.
Donc là, ça peut générer un gros potentiel de surélévation, si on sait que vraiment ça permet de financer des travaux de rénovation énergétique.
Exactement. Et c'est comme ça que justement on l'aborde auprès directement des métropoles qui ont en fait cette charge-là aussi de trouver des solutions de rénovation de leur parc. Et la difficulté, c'est de comment faire quand une métropole est face effectivement à un parc immobilier vieillissant où on a des contraintes patrimoniales aussi qui sont des fois assez fortes. Comment faire pour trouver des leviers de financement, parce qu'en fait, les fonds publics ne suffisent pas. Et le but, c'est justement pas d'utiliser tous les fonds publics pour rénover le bâti. Là, c'est une occasion en or, en fait, d'avoir un autofinancement. Quand on parle de rénovation du bâti, en fait, le principe est assez, assez simple. C'est que, mettons une copropriété. Donc, une copropriété, en fait, est propriétaire de l'ensemble de son bâtiment, évidemment, de sa toiture aussi, bien sûr. Et donc, elle est propriétaire des droits à surélever, si elle en a. C'est-à-dire, si le bâtiment est plus bas que le PLU l'autorise, que le règlement urbain l'autorise. Alors, à ce compte-là, donc, elle est détentrice, en fait, d'un droit à surélever, qu'on appelle donc le foncier aérien. Et donc, elle peut le vendre à un tiers, donc à un porteur d'opération, un promoteur, un marchand de biens ou une société spécialisée qui, du coup, va construire en surélévation, va vendre les logements créés, si ce sont des logements. Et avec cet argent, donc ce qu'on appelle une soulte, avec cet argent, la copropriété peut financer ses travaux. Donc, soit elle les réalise de son côté, soit elle le fait dans le cadre du projet. En général, ce qui se passe, c'est donc dans le cadre d'un projet en global.
La surélévation, quand elle est envisagée dans des secteurs denses, donc la question à se poser, c'est comment faire pour éviter que ça rajoute au problème du réchauffement climatique. Il y a des éléments à prendre en considération.
La question des îlots de chaleur et de la surélévation, on commence à l'aborder. On est au début aussi d'une petite recherche qui va s'atteler à ce sujet. Ce qu'on sait actuellement, c'est en fait quels sont les éléments qui ajoutent au problème et quels sont ceux qui enlèvent au problème en surélévation. On sait que par exemple, pour les points négatifs, il y a le fait évidemment d'ajouter des personnes et de la masse, et donc en fait nécessairement de l'évacuation de chaleur. On sait que la surélévation, si elle est à l'aplomb, dans la continuité du bâti, évidemment, prolonge la verticale de la rue, donc en fait prolonge d'autant l'échappatoire à de l'air chaud. Maintenant, côté positif, il y a trois éléments qui sont importants. C'est la possibilité effectivement d'installer une toiture végétalisée, le financement de la rénovation thermique. Donc le bâtiment, s'il est isolé, il va beaucoup moins être déperditif, donc ça va être une grande économie. Et dans la rénovation, il y a aussi la possibilité de changer l'albédo de la façade, en fait, en changeant la couleur. La question maintenant, c'est de se dire quel est l'équilibre, encore une fois, comment est-ce qu'on arrive à mesurer précisément, pour se dire, à chaque projet, on sait comment, on sait quelles sont les choses à mettre en place. Maintenant, on le sait de manière un peu empirique. Le but de la recherche, ça va être de préciser cet aspect-là aussi et de le mesurer.
Alors, on va conclure. Donc, tu as mené un travail de combien d'années ?
Cinq ans.
Alors, est-ce que ce travail que tu as engagé pour cette thèse rejoint un petit peu tes hypothèses de départ ? Qu'est-ce qui t'a surpris, finalement, au bout de ces cinq années de travail ?
Oui et non, il y a un travail doctoral, en tout cas je le vois avec mes collègues du labo, on passe un peu par des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on a notre propre vision au départ qui est nécessairement faite de préjugés parce que finalement on n'a justement pas encore mené la recherche. Il y a ces manques de données que la recherche justement vise à combler, donc avec ça on a une vision qui est partielle. Et donc on avance avec une ambition d'être objectif, de poser les bonnes questions, d'épouser vraiment la problématique. Après, oui, il y a des surprises. Et donc à un moment, on est tellement impliqué qu'on est presque déçu aussi de se dire ça se passe pas comme on voudrait. Et puis finalement, on revient avec des choses très positives, de se dire il y a quelque chose vraiment à tirer de cette solution-là qu'on a étudiée. Et moi, le fait que je poursuive dans la recherche sur ce sujet, justement, sur une des conclusions, en fait, encourageante, positive, c'est aussi la preuve que la recherche a été pour moi effectivement bénéfique à ce niveau-là.
Mais sur l'élévation, tu en déduis que c'est une solution intéressante, pertinente, mais qu'elle ne peut pas régler tous les problèmes, quoi. Il y a un potentiel qui est loin d'être négligeable, mais il n'est pas infini.
Voilà, tout à fait. Ce que la thèse a montré, c'est plus ou moins deux conclusions qui vont de pair. C'est de se dire, on ne peut pas attendre de la surélévation qu'elle résolve l'entièreté des problèmes et des enjeux, puisqu'en fait, d'un point de vue quantitatif, elle ne suffirait pas. C'est-à-dire qu'elle est nécessairement une des solutions parmi d'autres. Quand on pense, par exemple, à l'étalement urbain, il faut y opposer des solutions pour traiter la question des logements vacants, notamment, ou d'autres questions. De comment est-ce qu'on continue de construire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre une règle sur la limitation de la maison pavillonnaire, par exemple. Il y a un certain nombre de choses intrinsèquement liées à ce sujet. Maintenant, la surélévation, elle a un potentiel, du coup, donc, que la thèse a mis en évidence, qui a un potentiel qui existe et qui, en règle générale, est estimé autour de à peu près 10% du bâti existant d'une métropole, en règle générale dans les métropoles européennes et françaises. Maintenant, sur ces 10%, on estime que ça, c'est un potentiel réglementaire. On estime que finalement, il faut encore retrancher une bonne moitié de ce potentiel-là pour estimer les bâtiments qui sont réellement susceptibles d'être surélevés, quand on exclut finalement des situations de trop grande complexité ou de rentabilité trop faible, etc.
Donc aujourd'hui, tu es docteur en architecture et urbanisme.
Oui.
Tu enseignes à l'université de Strasbourg.
Tout à fait.
Tu es salarié donc pour la société Upfactor. Tu l'as un petit peu évoqué dans cet échange où tu vas réaliser donc un travail post-doc. Donc en fait, cette thèse, elle t'a ouvert plein de portes.
Tout à fait.
Et plein de champs.
Tout à fait.
Sur la surélévation.
Oui, exactement. Et Upfactor et son fondateur Didier Mignery, je l'ai rencontré au tout démarrage de ma thèse en 2015. Il donnait une conférence. Il n'avait même pas encore créé sa structure Upfactor. Il était architecte, chef de son agence d'architecture. Et il avait fait un projet de surélévation et il avait essuyé absolument tous les plâtres imaginables dans ce type d'opération qui a duré 10 ans. Et donc, en fait, il en est ressorti quand même vainqueur en se disant « mais il y a un tel potentiel ». Il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a besoin de résoudre un certain nombre de problèmes pour justement arriver à ce que les surélévations ne mettent pas toujours 10 ans à être faites. L'expertise opérationnelle de Upfactor, qui entre-temps est devenue une société de 25 personnes avec une équipe tech, dev, pardon, qui a développé vraiment ce logiciel qui croise les données avec des urbanistes, etc. Et mon expertise plutôt académique, et donc de ce prisme recherche, est très intéressante maintenant, en fait, à mettre de manière conjointe pour faire cette recherche postdoctorale.
T'étais loin d'imaginer que cette thèse allait t'apporter toutes ces opportunités ?
Oui, en fait, comment dire, moi, je me suis plongée dans cette thèse sans me poser vraiment de questions, paradoxalement, sur l'après. On est complètement dedans, immergés, on l'a fait... Je l'ai fait assez sincèrement, de manière très neutre. Et donc, je suis en fait assez critique dans la thèse. Je vais assez loin dans les analyses. Et donc, je mâche pas mes mots. Et une fois qu'on en sort, on prend du recul et on se dit « Ah oui, il y a ça qui était vraiment génial et vraiment intéressant. » Et je vais aller plus loin là-dessus, quoi.
Merci beaucoup, Géraldine, pour cet échange.
Merci à toi.
échange tout à fait passionnant. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Je mettrai en ligne des informations liées à cet épisode sur le site de l'agence Plus d'idées, agence-plus-d'idées.com. Vous verrez, il y a une rubrique Le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux. Faites-le vivre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner donc à la page LinkedIn des Nouveaux Territoires et au compte Twitter pour suivre l'actualité du podcast. Et puis, si vous avez des idées de sujets, des questions, des observations, écrivez-moi à l'adresse suivante bonjour@agence-plus-d'idées.com. À très bientôt pour un prochain épisode de Nouveaux Territoires. Salut à tous.